L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. L'Institut Montparnasse a souhaité consacrer les 24, 25 et 26e épisodes de ce podcast à la santé mentale des étudiants en santé. Parmi ces différentes actions, la MGEN se penche depuis plusieurs années sur la question de leur bien-être. Un groupe de travail a réfléchi sur le sujet en 2017. Une étude commandée par la MGEN Bretagne en 2021 en a précisé les contours. Ce sont les résultats et enseignements à tirer de cette étude que nous allons aborder aujourd'hui avec Magali Robert, directrice adjointe en charge des ressources humaines au CH Paimpol-Tréguier-Lannion. Précisons encore que cette enquête a été réalisée par 4 étudiants de l'EHESP École des hautes études en santé publique auprès de 500 étudiants infirmiers et 650 étudiants aides-soignants. Magali Robert, vous avez participé en 2022 à une table ronde qui évoquait les résultats de l'étude sur la santé mentale des étudiants en santé. Certains résultats vous ont-ils étonné plus particulièrement ?
Oui, en effet, le fait que les étudiants aient des appréhensions sur leur première journée de stage m'a vraiment étonnée puisque je pensais qu'ils étaient peut-être plus préparés que finalement ce qu'ils sont.
Et alors cette appréhension pour vous, elle est due à quoi ? Elle est multifactorielle ?
Je pense qu'en fait, certains élèves ne sont jamais venus dans un établissement de santé. Donc, ils ont quelques représentations qui les inquiètent. Surtout, alors nous, nous avons un bassin vieillissant, donc une population soignée qui est quand même assez âgée. Donc, je pense que ça les stresse un peu pour leur premier jour de stage. Et la deuxième raison, c'est pour plutôt des personnes qui seraient en reclassement. C'est plus le fait de ne pas être accompagné suffisamment par des futurs collègues, en fait, des professionnels en poste, et de leur demander de faire le travail sans être vraiment considérés comme des élèves.
Quels sont les moyens que vos établissements mettent en place pour faciliter l'accueil des étudiants en santé ? Pouvez-vous nous donner les principaux dont les effets se sont révélés très positifs ?
Les établissements de Paimpol, Tréguier et Lannion font partie du groupement hospitalier de territoire d'Armor, qui est aussi constitué du centre hospitalier de Saint-Brieuc, qui est établissement support, du centre hospitalier de Guingamp et de celui de Lamballe-et-Quintin. Tous ces établissements sont en partenariat avec les instituts de formation du territoire, donc autant les instituts de formation infirmiers que les instituts de formation aides-soignants. Nous travaillons ensemble en fait sur l'accueil des élèves dans les terrains de stage pour deux raisons. D'une, pour déjà au niveau de leur qualité de vie de travail, les accompagner au mieux en fait dans les nouvelles fonctions qu'ils sont en train d'apprendre. Et puis aussi dans un but d'attractivité, puisqu'on considère qu'un bon accueil d'un élève, c'est potentiellement un futur recrutement pour nos établissements.
Très concrètement, Magali Robert, quels sont les moyens que vous mettez en place ? On a compris un partenariat entre plusieurs établissements, entre les établissements professionnels et les centres de formation, mais concrètement, ça passe par quel type d'outils ?
En fait, une formation tutorée par des professionnels, par exemple une élève infirmière, elle va être accompagnée par un tutorat d'une infirmière ou d'un infirmier professionnel qui a suivi une formation pour apprendre à accompagner les étudiants. Ensuite, on a des outils type guide. Alors, on n'a pas un guide uniforme sur tous les établissements, mais pour certains établissements, il y a en ce moment, dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail, un projet d'accompagnement des nouveaux arrivants et des élèves professionnels, on va dire futurs professionnels. Et ce guide, en fait, permet d'avoir des informations sur l'établissement et sur le service. Et pour d'autres établissements où il n'y a pas encore ce travail aussi abouti, il y a des guides du service en fait qui sont faits lors de la formation tutorat par les professionnels qui ensuite forment les étudiants.
De quelle façon le professionnel de santé, la personne qui est déjà, je dirais, compétente, aguerrie, s'y prend-elle pour accompagner, pour suivre cet étudiant en santé qui débarque parfois dans les établissements sans avoir vraiment de représentation juste de ce qu'est le métier, de ce qu'est un patient ?
Le cadre de santé du service reçoit l'étudiant ou l'élève qui va venir en stage dans son service, fait un entretien avec lui pour déjà voir quel est le parcours antérieur de l'étudiant. et adapter au mieux en fait justement l'accompagnement qui lui sera fait ensuite. Certains vont passer par des périodes d'observation déjà de leur environnement de travail avant de pouvoir être sur de la prise en soin ou en charge de patients. Et puis on essaye au maximum en amont d'aller dans les instituts de formation pour présenter les établissements, leur donner envie de venir en stage aussi sur les petits comme sur les gros établissements du GHT. Et aussi montrer qu'on essaye d'aller vers eux pour qu'il n'y ait pas trop de barrières aussi de représentation entre, par exemple, la direction et les professionnels. L'avantage, c'est que s'ils se sentent à l'aise pour venir dans nos établissements, on se dit que c'est potentiellement des futures personnes qui voudront venir travailler sur nos établissements.
Est-ce que la santé mentale, est-ce que la question de la qualité de vie au travail, est-ce que ces notions sont mentionnées, comprises, explicites au sein des centres de santé, des hôpitaux ?
Alors, je ne dirais pas que c'est une généralité. En tout cas, sur notre GHT, pour l'Agnon, on a entamé une démarche qualité de vie au travail en 2020 qui se concrétise par des actions en fait, mises en place par les professionnels et validées par la direction pour améliorer les conditions de travail, mais aussi favoriser la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Ce sont des actions que les étudiants ou élèves voient aussi lorsqu'ils sont en terrain de stage. On essaye de les associer le plus possible en passant par les directeurs des instituts de formation et en proposant par exemple des soirées gestion du stress autant pour les professionnels des établissements que pour les élèves. Actuellement, on a aussi des cours de cardio-boxing pour se défouler après sa journée de travail qui sont ouvertes autant aux professionnels qu'aux élèves.
Ce qui permet finalement de mettre tout le monde sur le même niveau et peut-être de favoriser des échanges entre ces différentes communautés.
C'est tout à fait ça. On a aussi un séminaire d'accueil des nouveaux professionnels en santé avec les internes, les médecins, en fait, les futurs médecins. En fait, c'est parti de l'idée de se dire on a une génération commune entre des médecins, des infirmiers, des aides-soignants. On peut aussi avoir des instituts de formation en de manip radiologie ou de sage-femme. Et en fait, on les accueille tous en même temps pour créer du lien et puis pour qu'ils se connaissent, puisque demain, ce seront peut-être des professionnels qui travailleront ensemble.
Est-ce que la souffrance au travail est nommée dans ces échanges ? Est-ce que ça fait partie aujourd'hui des éléments de langage ou des notions dont on parle assez aisément ?
Alors, on les sensibilise justement pour éviter tout ce qui est risques psychosociaux, burn-out, voilà, par des formations gestion du stress qu'ils ont dès l'école, en fait, ils ont des cours sur la gestion de leur stress. Nous, on organise une soirée gestion du stress où, en fait, il y a une application qui leur est proposée pour mesurer leur taux de stress. À partir de cette application, en fait, ils peuvent leur est proposé des ateliers. Donc, dans la soirée, il y a 8 ateliers, certains plus pour revenir sur une concentration sur soi, donc par exemple la sophrologie, la méditation pleine conscience, l'hypnose, et puis d'autres sont plus pour se défouler, comme la cardiobox. Et en fait, on est surpris parce que ils sont étonnés de voir leur taux de stress, en fait, leur pourcentage de stress, parce qu'on souvent on s'en rend pas compte quand même. Après, on parle souffrance dans les groupes de travail et qualité de vie au travail. On parle de souffrance malheureusement quand on est face à un problème. Pour moi, on n'en parle peut-être pas encore assez. Oui, j'aimerais vraiment qu'on tende vers encore plus de libération de la parole, en tout cas sur ces sujets, et donc du coup plus de prévention et plus de sensibilisation.
Est-ce qu'il y a encore des freins ou des points de progression ? Et in fine, quel serait le dispositif idéal si on pouvait l'imaginer ?
Alors des freins, bien sûr, il en reste certainement, puisque on est dans un contexte particulier dans les hôpitaux, surtout en ce moment. On est sur des tensions d'effectifs, on est encore dans la crise sanitaire, on a vécu vraiment les deux dernières années assez difficilement. Et forcément, accueillir soit un nouvel élève, soit un nouveau professionnel, ça demande aussi un investissement de la part des professionnels qui sont en poste et qui, eux, sont là depuis longtemps dans la difficulté avec cette crise sanitaire. Justement, on essaye de montrer que bien accueillir, c'est peut-être aussi gagner du temps ensuite pour si la personne elle vient travailler dans le service, on n'aura pas besoin de la reformer. On sensibilise vraiment nos professionnels sur ce côté. Moi, je pense qu'on voit de moins en moins de freins, en tout cas sur nos établissements, parce que la démarche commence à s'ancrer et on voit le bénéfice, en fait. Je pense que chacun voit le bénéfice de cet accompagnement fait aux élèves. Un dispositif idéal, vous m'avez demandé, serait vraiment un dispositif dans lequel on peut préparer en amont, ensemble, entre les formateurs et les directions des instituts de formation et les directions, alors surtout les directions des soins et les DRH, du côté centre hospitalier et services, on va dire, et où on pourrait vraiment être main dans la main pour s'aider justement mieux préparer les élèves avec des interventions. C'est vers là où on tend sur Lannion, par exemple, ou même sur Paimpol-et-Tréguier, où j'interviens auprès des élèves pour présenter les services dès la rentrée, pour se présenter aussi physiquement auprès d'eux, et puis où je réalise des cours sur le droit du travail pour en fait faire ce lien en disant même si vous n'avez pas travaillé sur nos établissements, on est là aussi pour répondre à vos questions sur un contrat de travail qui pourrait vous être proposé, même par une autre structure. Puis peut-être penser toujours aux élèves et pas ne pas les oublier dès qu'on crée une action en fait dans un établissement de santé. Je pense que ce serait en gros un dispositif idéal.
Merci Magali Robert pour tous ces éléments de compréhension et d'information. Merci infiniment. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux cerner les enjeux en matière de santé, de formation et d'action à mettre en place pour participer au bien-être des étudiants en santé. Ce podcast est à écouter et à réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de la MGEN, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts.